Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Alors ces paroles, vous les avez déjà entendues il y a 15 jours. Si vous étiez là, c'est notre frère Philippe qui nous parlait de ce passage en Exode 18, où le beau-père de Moïse, Jéthro, lui fait cette recommandation. Moïse devait diriger le peuple d'Israël, le juger et l'administrer. Mais la tâche était trop importante pour lui seul. Il n'était pas question d'enlever la responsabilité, mais plutôt de mettre à part des hommes capables, enseignés par Moïse, et de les établir chacun sur une partie du peuple afin qu'ils administrent les affaires courantes. Pour ce qui était des affaires importantes, ils étaient chargés de les faire remonter vers Moïse. L'objectif de ces paroles de Jéthro était « Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Qu'il ne soit pas seul à porter une telle charge, de diriger le peuple, et qu'il se concentre pleinement sur le but que Dieu lui a donné. » Jéthro avait le discernement et la sagesse pour donner à Moïse des paroles pleines de sens pour la direction du peuple d'Israël, afin d'accomplir la volonté de Dieu pour ce peuple. Et je crois qu'il en va de même aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ. Il en va de même pour l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Il en allait de même aussi à l'époque de ce qu'on appelle communément l'Église primitive, c'est-à-dire au temps des apôtres. Et je voudrais vous lire ce matin, et que nous lisions ensemble, un passage qui se trouve dans les Actes des apôtres, au chapitre 6, et nous lirons du verset 1 à 6. Acte 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, je continue au verset 7, de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alors ce passage que nous venons de lire, se trouve dans les Actes des apôtres, qui témoignent des événements qui vont de l'ascension de Jésus-Christ au ciel jusqu'au ministère de l'apôtre Paul. Avant son ascension auprès du Père, Jésus recommande à ceux qui croient en lui, à ses disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem dans l'attente du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, quand ils recevront cette puissance, le Saint-Esprit, ils seront ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ces paroles de Jésus vont être le fil conducteur de tout ce qui va se passer dans les Actes des apôtres. Et les Actes des apôtres feront état de l'annonce de l'Évangile avec ses phases, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puisque jusqu'aux extrémités de la terre, on va dire jusqu'aux extrémités de la terre, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens et qui va aller vers les païens. Et dans notre passage, nous nous situons encore dans la première partie, on pourrait dire, de l'annonce de l'Évangile en Judée, avant que la persécution ne favorise l'annonce de l'Évangile hors de Judée. Et je crois qu'il est intéressant de voir brièvement l'expansion de l'Église à ce moment-là, jusqu'à notre passage où l'Église va commencer à s'organiser d'une manière un peu plus précise. Après la Pentecôte, les premiers disciples reçoivent le Saint-Esprit, cette puissance, qui va leur donner d'être les témoins de Christ pour l'annonce de l'Évangile. Et il nous est dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les premiers temps de l'Église marquent un essor par la puissance du Saint-Esprit des croyants. Emmenés par Pierre et Jean, les apôtres accomplissent leur ministère de proclamation de la parole, et ce ministère est public. En effet, de nombreuses guérisons accompagnent l'annonce de l'Évangile. Pierre proclame publiquement l'Évangile de Jésus-Christ devant une foule souvent étonnée et surprise. Mais avec ces miracles, avec la proclamation de l'Évangile, les premières oppositions arrivent de la part des responsables juifs, mécontents qu'ils enseignent le peuple en annonçant à la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Pierre et Jean sont donc arrêtés et doivent déjà défendre leur foi devant les responsables juifs. Alors ils reviennent, ils sont relâchés et reviennent auprès des frères. Ils témoignent alors des menaces des principaux sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'ils décident en Église ? Ils décident de prier ensemble pour que le Seigneur leur donne cette force de pouvoir annoncer l'Évangile avec assurance. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont pouvoir, devant les menaces, continuer à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ avec assurance. Et en même temps, au sein de la communauté, une grande grâce remplit les frères. Il nous est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposer aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions chaque jour à chacun selon qu'il en avait besoin. On voit déjà là les prémices d'une organisation dans l'Église ou d'une redistribution envers ceux qui sont dans le besoin. Les apôtres, eux, continuent à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Ceux qui acceptent le message de la bonne nouvelle, changent de vie et mettent tout en commun. Les apôtres sont au centre de cette organisation. Les dons sont déposés à leurs pieds pour être distribués. Et on fait cette distribution chaque jour envers ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup de miracles et de prodiges se font au milieu du peuple par la main des apôtres. Et il nous est dit encore une fois, en acte 5, verset 14, le chapitre d'avant, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De fait, la multitude des gens qui entendaient accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés, des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le nombre de ceux qui croient au Seigneur, dans ces premiers temps de l'Église, ne cesse de croître. Et à nouveau, là où la puissance du Saint-Esprit agit, le malin essaye par tous les moyens de stopper l'action de Dieu. Et les apôtres sont à nouveau arrêtés, puis relâchés. Et il nous est dit que, heureux d'avoir subi des outrages pour le nom du Seigneur, chaque jour, ils continuaient à enseigner dans le temple et dans les maisons et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Malgré cela, les apôtres ne cessent pas leur mission. L'Église croit. L'Église est un même cœur. Les apôtres continuent à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai trouvé intéressant, au travers de ce bref résumé, de voir dans quel état d'esprit se situe l'Église des premiers temps. Et l'Église, les douze notamment, les douze apôtres, et l'Église va se trouver un petit peu comme Moïse devant une grande tâche. Ils doivent à la fois continuer leur mission et en même temps administrer cette Église grandissante. Et à cette époque-là, il nous est dit, en pleine expansion de l'Église, des tensions surgissent. Des tensions surgissent entre les disciples juifs d'origine juive, de culture, juifs, pardon, d'origine grecque, et ceux qui étaient nés en Palestine, qu'on appelait communément d'origine hébreu. Et les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors de cette distribution quotidienne de nourriture. Les apôtres devaient faire face aux menaces des responsables juifs, et c'est une nouvelle menace qui surgit à l'intérieur même de l'Église. L'objet de cette tension était la distribution de nourriture de ceux qui étaient le plus dans le besoin, à savoir les veuves ici hellénistes. Alors on entend par hellénistes les croyants juifs d'origine extérieure à la Palestine, et les Hébreux ici dans le texte sont les croyants juifs d'origine du pays. Et les premiers reprochent aux seconds que leurs veuves sont défavorisées dans la distribution quotidienne de nourriture. Ce sont là vraiment les premières tensions qu'on peut voir au sein même de l'Église des premiers temps. Ces tensions ont peut-être un arrière-plan identitaire qui entraîne un clivage suffisamment fort pour que ces murmures montent de certains. Et ces murmures entraînent des tensions suffisamment importantes, elles aussi, pour qu'elles soient mentionnées et nécessitent une réponse. Les premières tensions ne naissent pas d'une divergence sur l'enseignement, sur la foi, sur la proclamation de l'Évangile, mais sur un sentiment de négligence. Et l'Église et les apôtres se trouvent donc face à un problème qui n'est pas d'ordre doctrinal ou spirituel, mais auquel ils doivent apporter une réponse. Et que font les disciples? Les douze, il nous est dit, convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». Deux choses ici, dans la réaction des apôtres. Tout d'abord, les apôtres ne contestent pas le problème. Ils ne rentrent pas dans un conflit pour savoir qui a raison, qui a tort, s'il y a vraiment un favoritisme envers certains ou une partialité dans la distribution. Les apôtres ne contestent pas le problème, ils convoquent les frères et l'Église. Le problème est suffisamment important ou peut-être rendu public pour qu'ils convoquent l'ensemble de l'Église et des frères. Et il semble de toute manière que l'origine de ce problème se trouve dans ce qui nous est dit au verset 1, « Le nombre de disciples ne cessait d'augmenter ». Et quand il y a une telle croissance, il n'est pas étonnant que des divergences et des conflits apparaissent au sein même de l'Église tôt ou tard. Devant le nombre grandissant de disciples, les apôtres se rendaient certainement compte que l'organisation dans la distribution de nourriture pouvait poser problème, et poser donc problème, et s'exposer à... eh bien, à des négligences ou à du défavoritisme, même sans le vouloir. Alors ce problème touche aussi bien, je pense, le service que l'organisation même de ce service. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'expansion de l'Église, les dons étaient déposés aux pieds des disciples, mis à leur disposition, et on les distribuait selon les besoins. Dans l'Église, il y avait certainement des personnes qui aidaient, pour la distribution, mais cette distribution se faisait peut-être par des membres de l'Église sans forcément beaucoup d'organisation, de fait des négligences surgissent. Le problème n'est pas tant le manque de personnes, parce que vous voyez que le nombre était grandissant dans l'Église, mais peut-être un manque d'organisation vraiment dans la distribution. Il y a un vrai problème et il faut y répondre. La deuxième chose que les apôtres disent, c'est qu'ils reconnaissent effectivement ce problème, mais ils révèlent que ce problème risque d'entraîner un problème aussi dans leur ministère à eux, une surcharge dans leur ministère. Et c'est vraiment quelque chose que les disciples décident de souligner ici. C'est le ministère de la parole qui risque d'être complètement abandonné, voire limité, s'ils doivent eux-mêmes prendre cette charge de servir aux tables. Et il n'est pas question de limiter ou d'abandonner l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ pour servir aux tables. Ce n'est pas un mépris pour ce besoin de service. Mais les apôtres ont une mission. C'est la proclamation de l'évangile. Et vous avez vu dans les premiers temps de l'Église comment ils n'ont eu de cesse de proclamer l'évangile. Même en étant arrêtés, ils ont continué. Il n'est pas question d'arrêter. Les apôtres considèrent que ce problème peut devenir un problème encore plus grand s'il vient à toucher le ministère de la proclamation et de l'enseignement et de la prière. Et je crois que nous avons déjà là un enseignement primordial à retenir dans l'Église. D'un point de vue général, il est très important de ne pas cumuler, faute de solution, des charges au risque d'altérer un service. Et d'un point de vue plus particulier et plus ciblé, il n'est pas bon pour l'Église que l'enseignement, la proclamation de la parole se trouve altérée par un manque d'emploi ou un manque de service qui viendrait se cumuler. On ne doit pas se tromper dans les solutions à apporter. Ici, les apôtres n'hésitent pas à mettre le doigt sur un problème qui les concerne. Parfois, on accepte, et pour ma part, j'en suis aussi responsable, des surcharges dans la vie ou dans l'Église, et on n'ose pas dire non. On n'ose pas dire on n'y arrivera pas. Et en disant ça, déjà on se surcharge soi-même, mais en plus on fait porter un risque sur le service et le ministère qu'on a pour charge. Et c'est un vrai danger. Ici, les apôtres montrent l'importance de leur ministère et aussi l'importance au travers de ce problème qui est soulevé d'organiser l'Église de manière concrète, efficace et légitime, et cela pour le bien de tous. La surcharge risque d'entraîner un danger, et ce danger, c'est d'abandonner un service pour un autre. Ici, l'enseignement et la proclamation de la parole. Et nous pouvons voir une similitude ici avec les paroles de Jéthro à Moïse. « Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » Il existe un vrai danger quand les décisions vont dans le sens de la surcharge comme solution ou par facilité. Et les apôtres, je crois, ont conscience de ça. Et face à ce problème de service, les apôtres proposent aux frères de l'Église qu'ils choisissent des hommes réputés pour un service efficace. Et c'est ce qu'ils disent au verset 3 et 4. Les disciples proposent « Choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Trois choses ici. La proposition des apôtres est intéressante tout d'abord. Il faut noter que les apôtres appellent l'Église à choisir ces hommes. Les apôtres ne sont, semble-t-il, pas intervenus directement dans le choix de ces hommes. En tout cas, l'appel qu'ils font « Choisissez parmi vous » va dans ce sens. Le problème soulevé était un problème de sentiment de favoritisme au sein même de l'Église dans le service. Et les apôtres appellent ici les frères à choisir au sein même d'eux ceux qui seront aptes à exercer ce service de manière équitable. Alors ce n'est pas une volonté des apôtres de se décharger du problème, mais c'est de mettre aussi les frères dans leurs responsabilités et surtout dans un commun accord, choisir ces personnes. La deuxième chose ici, c'est l'identification, le choix de ces hommes appelés au service. Et il se fait au travers de trois caractéristiques. Un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et c'est vrai que pour appeler des hommes et des femmes à servir dans nos églises, il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous baser dans ce choix. Et je crois que ces caractéristiques sont le reflet du caractère, entre guillemets, du chrétien. Un bon témoignage. Nous avons autour de nous, dans l'Église, des personnes, des hommes, des femmes qui vivent et qui témoignent dans leur vie d'une appartenance au Seigneur. Et leur vie est un témoignage d'appartenance au Seigneur. Cela doit nous aider. Et c'est aussi une garantie qu'ils agiront fidèlement par leur comportement dans le service qu'ils seront appelés à exercer. Rempli d'Esprit Saint, c'est rempli de l'Esprit de Dieu. Des hommes et des femmes qui indiquent par leur vie qu'ils appartiennent au Seigneur et qu'ils portent des fruits de l'Esprit. Rempli de sagesse, bien évidemment, dans des services, quel que soit le service, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui seront aptes à servir d'une manière juste, avec prudence, avec discernement, avec équité. Ces traits doivent servir les frères là, de l'Église, mais doivent nous servir aussi à nous dans le choix de serviteurs pour l'Église. Vous savez, quand Barnabas fut envoyé à Antioche pour exhorter les frères, les nouveaux disciples au Seigneur, il nous est dit que lorsqu'il fut arrivé, qu'il vit la grâce de Dieu sur cette Église, il s'en réjouit et les exhorta tous à garder un cœur ferme attaché au Seigneur. Et il nous est dit de Barnabas qu'il était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ce qui caractérise le chrétien véritable, solide, engagé, c'est ces qualités qu'énumèrent ici les apôtres et qui identifient celui qui peut appeler à être à servir. Les apôtres proposent donc une direction à prendre. Ils en définissent les contours, et les frères de l'Église sont appelés à sélectionner ceux qui répondent à ces critères. La troisième chose ici que soulèvent les apôtres, c'est que par cette proposition, leur ministère est préservé. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et cette proposition des apôtres montre par là que leur ministère restera non seulement préservé, mais intact pour la mission qu'est la leur. Ministère de la proclamation de la parole, de l'enseignement, de la prière. C'est-à-dire la direction spirituelle de l'Église et la proclamation de l'Évangile vers l'extérieur. Encore une fois, nous voyons ici des similitudes par rapport aux propos de Jéthro à Moïse. Quand Jéthro dit à Moïse « Allège ta charge et qu'il la porte avec toi », si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Tu pourras accomplir ta mission. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination, c'est-à-dire pour le bien de l'Église. Les apôtres peuvent mener à bien leur tâche selon l'ordre de Dieu, et ce sera bon pour l'Église. Cette décision, cette proposition que donnent les apôtres apporte une solution à un problème identifié, tout en préservant ce qui est important dans leur ministère. Et cette réponse des apôtres, je trouve, montre aussi quelque chose de puissant d'un point de vue spirituel. Les hommes qui seront choisis participeront à un service défini, cet emploi de servir aux tables avec tout ce qu'ils représentent. Mais par leur service, nous voyons qu'ils contribuent aussi au service des apôtres. Si les apôtres avaient dû prendre en charge ce service, prendre cette surcharge, leur ministère aurait été trouvé altéré. Mais par le service de ces hommes, les apôtres vont pouvoir, comme ils le disent, se consacrer, continuer à se consacrer et à s'appliquer à l'enseignement et à la prière. En quelque sorte, par cet emploi aux tables, les serviteurs désignés participent aussi au bon fonctionnement de la proclamation de la parole de Dieu. Allège ta charge, qu'il la porte avec toi. Bien évidemment, les serviteurs qui seront appelés de servir aux tables ne vont pas prendre en charge l'enseignement et la proclamation de la parole, mais par leur charge, ils vont permettre aux apôtres de se consacrer pleinement à leur service. Donc, à quelque part, ils les aident à porter aussi leur charge. Servir dans l'Église, quelle que soit la tâche, c'est participer aussi au bon déroulement du ministère de notre frère. Ce n'est pas travailler seul dans son coin, c'est participer aussi au ministère de notre frère, donc de participer au bon fonctionnement du corps de Christ qu'est l'Église. En servant, on ouvre un champ, un espace de consécration pour un autre ministère. On arrive maintenant à la concrétisation de cette direction donnée par les apôtres, le choix des serviteurs de l'Église. Il nous est dit au verset 5 et 6, « Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. » Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, encore plusieurs choses ici. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Assemblée accueille favorablement la proposition donnée par les apôtres. Avant même de rentrer dans le choix des personnes, il nous est dit cette phrase, ce verset, « L'Assemblée accueille favorablement la proposition donnée par les apôtres. » Et ces versets, ce verset révèle un consensus dans ce sens. Avant toute décision à prendre et tout choix, il est déjà important d'avoir un consensus dans la proposition. On n'est pas encore dans le choix des personnes, mais dans la manière de parvenir à ce choix. Finalement, l'Assemblée reconnaît que la proposition, que la direction donnée par les apôtres répond à un besoin révélé. Et cela rend le choix plus facile après. Cela doit nous aider aussi à prendre des décisions. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de discussion, bien évidemment. Mais une proposition qui crée un consensus va permettre d'avoir un résultat certainement plus clair à la fin. Il faut faire attention aux propositions qui créent des divisions et qui ne réunissent pas un certain consensus dans l'Église avant de faire un choix. Ensuite, dans le texte ici, il semble effectivement que c'est bien l'Église qui élit les hommes qui sont choisis selon la proposition des apôtres. Il nous est dit qu'alors ils élurent Étienne, homme plein de foi, etc., etc. Et ensuite, ils les présentèrent aux apôtres. Après cela, les apôtres prièrent et leur imposèrent les mains. Les apôtres valident ce choix, prient pour eux et leur imposent les mains pour ce ministère, pour ce service, pardon, particulier. Enfin, l'Église fait un choix qu'on peut qualifier de varié par les origines des personnes qui sont choisies et par les dons qu'elles ont. Alors, on ne connaît pas tout le monde, mais on sait déjà par leur origine qu'on a notamment Nicolas, chrétien, dont l'origine est prosélyte d'Antioche, c'est-à-dire un étranger, un gentil en grec, un étranger de la ville d'Antioche qui avait été converti au judaïsme, qui avait cette appartenance-là, qui est devenu chrétien. On a aussi des gens différents de par leurs dons, et vous en connaissez au moins deux, Étienne et Philippe. Étienne, décrit comme homme plein de foi et d'Esprit Saint, c'est ce fameux évangéliste, enseignant que nous avons entendu semaine dernière, qui proclamera la parole avec puissance à la manière de l'apôtre Paul, qui faisait des prodiges parmi le peuple et qui laissera sa vie en martyr. Étienne est un des sept. On a également Philippe appelé l'évangéliste. Après la persécution qui vient bientôt, après le meurtre d'Étienne, il va porter l'évangile en Samarie, hors de Judée. Ça va être d'un de ceux qui va porter l'évangile hors de Judée en Samarie. Il va participer à la conversion de l'eunuque, vous savez, le ministre éthiopien. Et il ira jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes alentour. Et puis au milieu de tous ces gens connus, on dirait ces frères connus, nous avons des frères complètement anonymes. Des frères complètement anonymes. Ce ne peut être pas des futurs enseignants, peut-être pas des futurs évangélistes, mais ce sont des personnes selon la proposition des apôtres. Ce sont des personnes de qui on rend un bon témoignage, remplies d'Esprit Saint et de sagesse. Le choix de l'Église d'avoir au milieu de ces hommes des futurs évangélistes, des gens anonymes, montre qu'un service particulier ne se limite pas à un service à vie. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir l'exercice de d'autres dons et être appelé à exercer d'autres dons. Ce choix montre aussi que, au milieu des dons révélés, des frères plus ou moins anonymes sont parmi les élus. Parfois, quand on regarde le choix des personnes appelées au service dans l'Église, à rentrer au conseil de diacre, par exemple, on se dit « c'est pas pour moi ». Ah non, je suis pas assez bien pour y être. Mais c'est pas une notion de bien ou pas bien. Nous pouvons avoir des gens qui exercent déjà des services d'enseignement, qui rentrent au conseil, ou des personnes qu'on ne connaît absolument pas. Il n'est pas nécessaire d'être un cadre supérieur pour servir. Ce choix répond à un besoin identifié sous une direction donnée par les apôtres et selon les caractéristiques qui donnent l'image du chrétien véritable. Alors ce passage apporte un enseignement, je crois, sur le choix des serviteurs et doit nous servir chacun individuellement dans le choix des futurs serviteurs de l'Église et dans la considération de son propre engagement dans le service. Il doit servir à la fois les dirigeants de l'Église, les responsables de l'Église. Il doit servir à ceux aussi qui exercent déjà un ministère dans l'Église. Il doit servir aussi ceux qui se posent la question « qu'est-ce que je peux faire pour l'Église ?» On remarque ici que le texte n'emploie pas le mot de diacre, comme on le voit après dans les lettres de Paul, mais les serviteurs qui sont nommés ici ont toutes les caractéristiques du diacre. Pour les services dits pratiques dans l'Église, un serviteur, un diacre, est celui qui est appelé à l'organisation, à la logistique, aux finances, aux services autres que les services de direction d'Église, d'anciens, de pasteurs, d'enseignants, de docteurs, etc. C'est-à-dire autres que les conducteurs spirituels de l'Église. Le diacre répond à un besoin identifié dans l'Église et par son service, il accomplit une tâche donnée et identifiée. Le diacre doit être une personne convertie au Seigneur, solide dans sa foi, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Le diacre, par son service, participe au bon fonctionnement du corps de Christ, et par son service, il participe au bon fonctionnement des autres services dans l'Église. Le diacre est un serviteur, choisi par l'Église et mis à part pour un emploi particulier. Alors ce passage doit nous permettre de considérer les besoins de notre Église aujourd'hui, comment y répondre, comment chacun peut s'inscrire dans le service. Alors bien évidemment, ce passage n'est pas unique et il n'est pas la seule et unique manière de choisir des serviteurs dans l'Église, mais il doit nous aider dans le choix des serviteurs. Et il n'est pas bon, en tout cas pour une église et pour notre église aussi, que certains serviteurs prennent toutes les charges, cela au détriment de leur ministère ou de leur service, et en tout cas ça n'entraînera rien de bon pour l'église. Mais il faut considérer que notre église, comme l'église de cette époque, a besoin de plus de serviteurs pour répondre aux besoins de l'église. Et donc c'est la charge des responsables de pouvoir faire identifier ces besoins, de proposer et de répondre à ses besoins. Lorsqu'on recherche des serviteurs pour entrer au conseil de diacre de l'Église, on est souvent devant notre petit papier blanc. Alors même si on a réfléchi avant, on doit cocher un nom ou plusieurs, et parfois on a du mal à mettre un nom, même si on a prié pour ça. Même si on a pris un temps pour ça, on a du mal à identifier. Parce qu'on a des freins qui nous sont propres. On a des difficultés qui nous sont propres. Et au regard de la parole de Dieu, nous voyons que les apôtres font des propositions très précises, mais très simples. Très précises, mais très simples. Quelqu'un de qui on rend un bon témoignage, qui est rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Est-ce que dans nos églises, nous manquons tant de personnes qui répondent à ces critères-là? Ce passage doit nous aider aussi individuellement à ouvrir les yeux sur nous-mêmes, à ne pas nous limiter dans ce que nous croyons savoir faire. Mais vous êtes peut-être appelé à servir. Posez-vous cette question. Vous êtes peut-être appelé à servir et vous êtes peut-être les Philippe, les Prochor, les Nicanor, les Timon, les Parménas et les Nicolas de cette église. Oui. Le diable essaie toujours de nous sous-estimer. Il essaie toujours d'amenuiser nos compétences. Je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi. Je n'y arriverai pas. Mais le Seigneur est tout-puissant pour nous révéler qu'il nous veut dans son plan et il nous veut dans le service dans l'Église. Et il veut que nous soyons participants aussi dans son corps qu'est l'Église. Vous voulez participer au bon fonctionnement de l'Église ? Vous voulez participer à l'expansion de l'Église de Jésus-Christ ? Je vous poserai qu'une seule question, voulez-vous être de cela ?